Lettre septième. Réponse d'Abélard à Héloïse. Sommaire. Abélard, à qui Héloïse, dans sa lettre précédente, avait demandé, tant en son nom qu'au nom de ses compagnes, de leur écrire touchant l'origine de l'ordre des religieuses, répond avec de larges développements à cette lettre et à ce désir. Faisant remonter l'origine de l'ordre à la primitive Église et jusqu'à la Sainte Association instituée par le Sauveur du monde, il passe en revue ce que Philon le Juif et ce que l'histoire tripartite rapporte des premiers ascètes. Partout dans cette lettre, il exalte le sexe féminin et il honore de ses louanges la virginité, non seulement chez les chrétiennes et chez les juives, mais encore chez les femmes du paganisme. Enfin, ce morceau, dans son ensemble, n'est presque qu'un délicat panégyrique du sexe féminin. Abélard s'attache surtout à l'éloge de la virginité, dont il cite de remarquables exemples chez les païens. Votre pieux zèle, très chère sœur, m'a interrogé en votre nom et au nom de vos filles spirituelles sur l'ordre auquel vous appartenez. Vous désirez connaître l'origine des congrégations de religieuses. Je vais vous répondre en peu de mots et aussi succinctement qu'il sera possible. 1. C'est de Jésus-Christ même que les ordres monastiques d'hommes et de femmes ont reçu la forme parfaite de leur constitution. Avant l'incarnation du Sauveur, il y avait bien eu, tant pour les hommes que pour les femmes, quelques essais de ces sortes d'établissements. Saint Jérôme, en effet, écrit à Eustochie: les fils des prophètes que l'Ancien Testament nous représente comme des moines, etc. Saint Luc aussi rapporte qu'Anne, étant veuve, se consacra au service du Temple, qu'elle mérita d'y recevoir le Seigneur, conjointement avec Siméon, et d'être remplie de l'Esprit prophétique. Mais ce n'était que des ébauches. C'est Jésus-Christ, la fin de la justice et l'accomplissement de tous les biens, venu dans la plénitude des temps pour achever ce qui n'était qu'ébauche et faire connaître ce qui était inconnu, c'est lui qui, de même qu'il était venu pour acheter les deux sexes, a daigné les rassembler l'un et l'autre dans le véritable couvent de ses fidèles, sanctionnant ainsi, pour les hommes et pour les femmes, le principe de la profession religieuse et leur proposant à tous, en exemple, la perfection de sa vie. Nous voyons en effet qu'avec les apôtres et les autres disciples, avec sa mère, de saintes femmes raccompagnées. En renonçant au monde, en faisant le sacrifice de tout bien pour ne posséder que Jésus, ainsi qu'il est écrit, « Le Seigneur est un héritage ». Elle n'avait fait sans doute qu'accomplir pieusement ce que doivent faire, selon la règle prescrite par le Seigneur, tous ceux qui sortent du siècle pour participer à la communauté de la vie religieuse. Nul ne peut être mon disciple, est-il dit, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède. Mais avec quel pieux amour ces saintes femmes, ces vraies religieuses, ont suivi Jésus-Christ, de quelle grâce il a ensuite comblé leur piété, quels hommages il leur a rendus, ainsi que ses apôtres, les saintes Écritures le racontent fidèlement. Nous lisons dans l'Évangile que le Seigneur réprima les murmures du pharisien qui lui avait donné l'hospitalité et mit au-dessus de son hospitalité l'humble hommage de la femme pécheresse. Nous lisons encore que Lazare, après sa résurrection, mangeant avec les autres convives, Marthe, sa sœur, était seule occupée à servir et que Marie répandit alors une huile précieuse sur les pieds du Seigneur et les essuya ensuite avec ses cheveux, en sorte que toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum, et que Judas, dans un sentiment de convoitise, s'indigna, ainsi que les autres disciples, en voyant consommer en pure perte une chose d'un si grand prix. Ainsi, tandis que Marthe s'occupait des aliments, Marie préparait des parfums. L'une pourvoit aux besoins du Seigneur, l'autre, par cette ablution, soulage sa lassitude. L'Évangile ne nous montre que des femmes servant le Seigneur. Elles avaient consacré tout leur bien à assurer sa nourriture de chaque jour et pris la charge de lui fournir les choses nécessaires. Lui-même se montrait le plus humble des serviteurs envers ses disciples. Il les servait à table, il leur lavait les pieds, et nous ne voyons pas qu'il ait jamais reçu d'aucun d'eux ni d'aucun homme de semblable service. Ce sont des femmes seules, je le répète, qui lui prêtaient leur ministère pour tous les besoins de l'humanité. Martha remplit l'un de ses devoirs, Marie l'autre, et Marie, en cela, montrait un dévouement d'autant plus pieux qu'elle avait été auparavant plus coupable. C'est avec de l'eau mise dans un bassin que le Seigneur remplit envers ses disciples ce devoir d'ablution. C'est avec les larmes de son cœur, avec les larmes de la componction, non avec une eau extérieure, que Marie l'accomplit envers lui. Le Seigneur essuya avec un linge les pieds des apôtres. Marie, pour linge, se servit de ses cheveux et elle y ajouta des onctions d'huile précieuse, ce que nous ne voyons pas que Jésus-Christ ait jamais fait. Tout le monde sait que, dans sa confiance en la miséricorde du Seigneur, elle ne craignit pas de répandre aussi le parfum sur sa tête. Et ce parfum, elle ne le fit pas couler du vase, mais elle brisa le vase pour le verser, afin de mieux exprimer l'ardeur de son zèle, pensant sans doute qu'elle ne pouvait plus conserver pour un autre usage un vase qui avait servi à un tel hommage. Et par cet hommage, elle accomplit la prophétie de Daniel qui avait prédit ce qui devait arriver après l'onction du Saint des Saints. Voici en effet qu'une femme est venue oindre le Saint des Saints et proclame par ce fait qu'il est à la fois et celui en qui elle croit et celui que le prophète avait désigné. Quelle est donc, je le demande, la bonté du Seigneur, ou plutôt, quel est le mérite privilégié des femmes pour que ce soit à des femmes seules qu'il laisse oindre et sa tête et ses pieds? Oui, quel est le mérite privilégié du sexe le plus faible pour qu'une femme vienne oindre celui qui, dès sa conception, était loin du Saint-Esprit, consacré par ce sacré matériel dans le Christ souverain, le roi et le pontife, de faire Christ en un mot, c'est-à-dire oindre son corps matériellement? C'est, nous le savons, le patriarche Jacob qui, le premier, oignit une pierre comme image du Seigneur, et dans la suite, il ne fut permis qu'aux hommes de faire les onctions des rois ou des prêtres et de conférer les autres sacrements, bien que les femmes puissent quelquefois baptiser. Le patriarche avait jadis sanctifié avec de l'huile bénite la pierre qui était l'image du temple. De même, aujourd'hui, c'est l'autel que bénit le prêtre. Les hommes ne consacrent donc que des emblèmes, tandis que la femme, c'est sur la vérité même qu'elle a opéré, ainsi que la vérité l'atteste en disant « Elle a opéré sur moi une bonne œuvre ». C'est d'une femme que le Christ a reçu l'onction, tandis que les chrétiens la reçoivent des hommes. C'est une femme qui a sacré la tête, les hommes ne sacrent que les membres. C'est par effusion et non goutte à goutte qu'on rapporte avec raison qu'elle a répandu le parfum, ainsi que l'épouse l'avait auparavant chanté dans le Cantique des Cantiques « Votre nom est une huile répandue ». Et David a mystérieusement prophétisé cette abondance de parfum qui coula de la tête du Sauveur jusqu'à son vêtement lorsqu'il dit « Ainsi que le parfum répandu sur la tête d'Aaron qui couvrit sa barbe et qui descendit jusqu'à son vêtement ». Saint Jérôme nous rappelle, au sujet du 25e psaume, que David reçut une triple onction. Tel Jésus-Christ, tel les chrétiens. En effet, les pieds du Seigneur, puis sa tête, ont reçu des parfums de la main d'une femme. Et après sa mort, Joseph d'Arimathie et Nicodème, selon le récit de Saint Jean, ont embaumé son corps avant de l'ensevelir. Les chrétiens aussi reçoivent trois onctions saintes. Le baptême, la confirmation et l'extrême onction. Qu'on juge par là de la dignité de la femme. Par elle, le Christ vivant a été oint deux fois, aux pieds et à la tête. D'elle, il a reçu l'onction du roi et du prêtre. La myrrhe et l'aloès, qui servent à embaumer les morts, ne font que figurer l'incorruptibilité future du corps de Jésus-Christ, incorruptibilité dont tous les élus jouiront à la résurrection. Mais les premiers parfums employés par la femme marquent la grandeur sans exemple du règne et du sacerdoce de Jésus-Christ. L'onction de la tête s'applique au premier, celle des pieds au second. Voilà donc qu'il a reçu l'onction royale des mains d'une femme, lui qui s'est refusé à accepter la royauté que lui avait offerte des hommes, lui qui s'enfuit parce qu'il voulait le contraindre à l'accepter. Et c'est comme roi du ciel, non comme roi de la terre, qu'une femme l'a sacré, suivant ce qu'il a dit lui-même, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Les évêques se glorifient alors qu'aux applaudissements des peuples, ils joignent les rois de la terre ou que, revêtus d'habits magnifiques et ruisselants d'or, ils consacrent des prêtres mortels, bénissant trop souvent ceux qui sont maudits de Dieu. C'est une humble femme qui, sans changer de vêtements, sans aucun appareil et au milieu de l'indignation des apôtres, confère au Christ ses deux sacrements, non par devoir d'État, mais par zèle de dévotion. Ô merveilleuse fermeté de la foi ! Ô inappréciable ferveur d'amour qui croit tout, espère tout et souffre tout ! Le pharisien murmure de ce qu'une pécheresse oint les pieds du Seigneur. Les apôtres s'indignent hautement de ce qu'une femme ne craint pas de toucher à sa tête. La foi de la femme demeure inébranlable. Elle a confiance dans la bonté du Seigneur, et l'approbation du Seigneur ne lui fait défaut ni pour l'une ni pour l'autre onction. Il témoigne lui-même combien ses parfums lui ont été agréables, avec quelle reconnaissance il les a reçus, en demandant qu'on lui en réserve et en disant à Judas indigné « Laissez-la m'en conserver pour le jour de ma sépulture. » C'est comme s'il eût dit « Ne détournez pas de moi cet hommage tandis que je vis, de peur de m'enlever du même coup les témoignages de sa piété après ma mort. » Il n'est pas douteux, en effet, que ce soit les saintes femmes qui ont préparé les parfums pour embaumer son corps, et Marie se serait moins empressée d'être du nombre si elle eût alors éprouvé la honte d'un refus. Au contraire, tandis que les disciples s'indignaient de la hardiesse de cette femme et murmuraient contre elle, comme dit saint Marc, après les avoir apaisées par des réponses pleines de douceur, il fit l'éloge de son offrande et voulut que mention en fût insérée dans son évangile, afin que ce fait fût, avec l'évangile, répandu par toute la terre, en mémoire et à l'honneur de cette femme qu'ils accusaient de présomption. Et nous ne voyons pas que Dieu ait jamais honoré et sanctionné d'une telle recommandation aucun des hommages qui lui furent rendus. Il a encore témoigné combien il avait pour agréable la piété des femmes, en préférant à toutes les offrandes du temple l'aumône de la pauvre veuve. Autre exemple, Pierre se fait honneur d'avoir, lui et ses compagnons, tout abandonné pour le Christ. Zachée, ayant reçu le Seigneur suivant son désir, donna la moitié de son bien aux pauvres et restitua le quadruple à ceux à qui il avait pu faire quelque tort. Beaucoup d'autres ont fait de plus grandes dépenses encore, soit pour le Christ, soit pour l'amour du Christ. Pour lui rendre hommage, ils ont sacrifié, ils ont laissé des choses infiniment plus précieuses. Cependant, ils n'ont pas obtenu du Seigneur les mêmes louanges, les mêmes recommandations que les femmes. Leur conduite à sa mort prouve clairement qu'elle avait toujours été la grandeur de leur pieux dévouement. Le chef des apôtres le reniait, son bien-aimé s'était enfui, les autres s'étaient dispersés. Seules, elles demeurèrent intrépides. Crainte, douleur, rien ne put les séparer du Christ pendant sa passion ni au moment de sa mort. En sorte que c'est à elles particulièrement que paraît s'appliquer cette parole de l'apôtre « Qui nous séparera de l'amour du Seigneur ? Sera-ce la persécution ou la douleur ?» C'est pourquoi saint Matthieu, après avoir appelé sa fuite et celle des autres, en disant « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent », ajoute au sujet de la fidélité des femmes qui l'assistaient jusque sur la croix, autant qu'on les laissait faire. Il y avait là plusieurs femmes venues de loin qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et qui le servaient. Le même évangéliste nous les peint inébranlablement attachées à la pierre du tombeau. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, dit-il, assises près du tombeau. Saint Marc dit également, en parlant de ces femmes, « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Madeleine et Marie, mères de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé. Elles l'avaient suivi en Galilée et elles le servaient, ainsi que beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. » Jean, qui d'abord s'était enfui, raconte qu'il se tint au pied de la croix et assista le crucifié. Mais avant la sienne, il fait passer la fidélité des femmes, comme si c'était leur exemple qui eût rappelé et ranimé son courage. Au pied de la croix se tenait, dit-il, la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Quand donc Jésus vit sa mère et son disciple au pied de la croix ? Cette fermeté des saintes femmes et cette défection des disciples, longtemps auparavant, le saint homme Job les avait prophétisées dans la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il disait « Mes os se sont attachés à ma peau, mes chairs se sont consumées, et il ne me reste que les lèvres autour des dents. » Dans les os, en effet, qui soutiennent et portent la chair et la peau, réside la force du corps. Or, dans le corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, il entend par l'os le fondement de la foi chrétienne ou cette ardeur d'amour dont il est dit dans le cantique « Des torrents d'eau n'ont pu éteindre son amour » et dont l'apôtre dit aussi « Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout. » La chair est dans le corps la partie intérieure, la peau la partie extérieure. Les apôtres sont occupés à répandre la foi, c'est-à-dire la nourriture de l'âme, et les femmes qui veillent aux besoins du corps sont comparées à la chair et à la peau. Lorsque les chairs du Seigneur ont été consumées, l'os du Christ est attaché à la peau parce que les apôtres, scandalisés dans sa passion et désespérés de sa mort, le dévouement des saintes femmes demeura inébranlable et ne quitta point l'os de Jésus-Christ. Parce qu'elles ont persévéré dans la foi, l'espérance et la charité, au point de ne l'abandonner ni de corps ni d'âme après sa mort. Naturellement, les hommes sont, de corps et d'âme, plus forts que les femmes. D'où, avec raison, la chair qui est plus voisine des os figure la nature de l'homme, tandis que la peau représente la faiblesse de la femme. D'un autre côté, les apôtres, dont le devoir est, pour ainsi dire, de mordre les hommes en les reprenant de leurs fautes, sont appelés les dents du Seigneur. Mais il ne leur restait plus que les lèvres, c'est-à-dire des paroles plutôt que des actions. Car, tandis qu'ils désespéraient, ils parlaient de la mort de Jésus-Christ beaucoup plus qu'ils n'agissaient pour Jésus-Christ. Tels étaient assurément ses disciples qui allaient à Emmaüs, s'entretenant de tout ce qui était arrivé, et auquel il apparut pour les blâmer de ce qu'ils désespéraient. Enfin, Pierre et les autres disciples eurent-ils autre chose que des paroles quand vint le moment de la passion ? Bien que le Seigneur leur eût prédit lui-même que ce moment serait pour eux un sujet de scandale, « Et quand tout serait scandalisé à cause de vous, dit Pierre, moi je ne le serai jamais. » Et ailleurs, « Quand je devrais mourir avec vous, je ne vous renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Oui, ils le dirent, mais ils ne le firent point. Lui, le premier, le plus grand des apôtres, qui, en parole, avait témoigné une telle fermeté qu'il avait dit au Seigneur, « Je suis prêt à marcher avec vous en prison, à la mort. » Lui, à qui le Seigneur avait alors particulièrement confié son Église en lui disant, « À vous, enfin convertis, d'affermir vos frères dans la foi. » Sur un mot d'une servante, il ne craint pas de le renier. Et cela, non pas une fois, mais trois, tandis qu'il vivait encore. Et tandis qu'il vivait encore, les autres disciples aussi s'enfuirent en un instant et se dispersèrent, au lieu que, même après sa mort, les femmes ne se séparèrent de lui, ni de corps, ni d'âme. Parmi elles, cette bienheureuse pécheresse, le cherchant après sa mort et le confessant pour son Dieu, dit « Ils ont enlevé le Seigneur de son tombeau. Et ailleurs, si vous l'avez enlevé, dites-moi où vous l'avez mis et je l'emporterai. Les béliers, que dis-je, les bergers même du troupeau du Seigneur s'enfuient, les brebis demeurent intrépides. Jésus-Christ reproche à ses apôtres la faiblesse de la chair parce que, à l'article de sa passion, ils n'ont pu veiller une heure avec lui. Les femmes, au contraire, passèrent la nuit entière au pied du tombeau et méritèrent de voir les premières la gloire de sa résurrection. Dans cette fidélité après sa mort, elles ont prouvé, par des actes et non par des paroles, combien elles l'avaient aimé pendant sa vie. Aussi est-ce à leur sollicitude pour lui pendant sa passion et après sa mort qu'elles durent de goûter les premières la joie de sa résurrection. En effet, tandis que, selon saint Jean, Joseph d'Arimathie et Nicodème enveloppaient dans des linges le corps du Seigneur et l'ensevelissaient avec des parfums, Marie-Madeleine et Marie-Joseph, au rapport de Saint-Marc, remarquaient avec soin l'endroit où il était déposé. Saint-Luc fait aussi mention de ce point. « Les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, dit-il, virent son tombeau et la manière dont le corps avait été déposé. Et, s'en retournant, elles préparèrent des parfums. Elles ne crurent pas ceux de Nicodème suffisants, elles voulurent y ajouter les leurs. Le jour du sabbat, elles se tinrent tranquilles et n'exécutèrent pas leurs desseins. Mais, selon saint Marc, le jour du sabbat passé, dès le matin, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé vinrent au tombeau le jour même de la résurrection. Maintenant que nous avons montré leur pieux zèle, montrons quelle en fut la récompense. D'abord, un ange leur apparut pour les consoler en leur annonçant l'accomplissement de la résurrection. Ensuite, elles virent avant tout le monde le Seigneur lui-même et le touchèrent, Marie-Madeleine la première, dont la ferveur était plus ardente, puis les autres avec elle. Je veux dire, celle dont il est écrit qu'après l'apparition de l'ange, elles sortirent du tombeau et coururent annoncer aux apôtres la résurrection du Seigneur. Et voici que Jésus vint au-devant d'elles, disant « Je vous salue ». Et elles s'approchèrent de lui, et elles touchèrent ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus dit « Allez et annoncez à mes frères qu'ils aillent en Galilée, là ils me verront ». Saint Luc, poursuivant ce récit, ajoute « C'était Madeleine et Jeanne, et Marie, mère de Joseph, et les autres femmes qui étaient avec elle, qui disaient cela aux apôtres. » Saint Marc ne laisse pas ignorer non plus que ce furent elles que l'ange envoya d'abord porter cette nouvelle aux apôtres, dans le passage où l'ange parlant aux femmes, il est écrit « Il est ressuscité, il n'est plus ici, mais allez, et dites à ses disciples et à Pierre qu'il les précédera en Galilée. » Le Seigneur lui-même, lorsqu'il apparut pour la première fois à Marie-Madeleine, lui dit « Allez à mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père. » D'où nous concluons que ces saintes femmes furent, pour ainsi dire, les apôtres des apôtres, puisque ce sont elles qui furent envoyées par le Seigneur ou par les anges pour porter aux disciples cette grande joie de la résurrection attendue de tous. C'est par elle que les apôtres apprirent ce qu'ils durent ensuite prêcher dans le monde entier. L'évangéliste a rapporté, en outre, que le Seigneur, après sa résurrection, venant à leur rencontre, les salua. Il voulut, par cette apparition et ce salut, leur montrer combien il avait pour elles de sollicitude et d'amour. Nous ne voyons pas, en effet, qu'il ait jamais employé vis-à-vis de qui que ce soit cette formule « Je vous salue ». Bien plus, il avait interdit à ses disciples en leur disant « Vous ne saluerez personne dans le chemin ». Il semble qu'il eût voulu réserver pour les saintes femmes ce privilège et en faire lui-même l'application lorsqu'il jouirait de la gloire de l'immortalité. Les actes des apôtres, lorsqu'ils rapportent qu'aussitôt après l'ascension de notre Seigneur, ses disciples revinrent du mont des Oliviers à Jérusalem et qu'ils décrivent fidèlement le pieux zèle de leur sainte communion, ne passe pas non plus sous silence la fermeté du dévouement des saintes femmes. Ils étaient tous, est-il dit, persévérant unanimement en prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. 2. Mais ne parlons plus des femmes juives qui, converties à la foi du vivant du Seigneur et par sa parole, ont jeté les bases du genre de vie que vous avez embrassé. Voyons les femmes grecques que, dans la suite, les apôtres convertirent. Avec quelle attention, avec quelle sollicitude ne les traitèrent-ils pas? Pour les servir, c'est le glorieux enseigne de la milice chrétienne, c'est Étienne, le premier martyr, qu'ils constituèrent avec quelques autres personnages inspirés de Dieu. D'où il est écrit dans les mêmes actes, « Le nombre des disciples se multipliant, un murmure s'éleva des Grecs contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient maltraitées dans la répartition des secours de chaque jour. » Et les 12 apôtres, ayant convoqué tous leurs disciples, dirent « Il n'est pas juste que nous quittions la parole de Dieu pour nous occuper du service des tables. Choisissez donc parmi vous, mes frères, 7 hommes d'une réputation sans tache, remplis de sagesse et de l'Esprit Saint, pour que nous les préposions à ce soin. Quant à nous, nous nous livrerons exclusivement à la prière et au ministère de la parole. » Et ce discours plut à toute l'assemblée, et ils choisirent Étienne, qui était plein de foi et de l'Esprit Saint, avec Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timothée, et Parménas, et Nicolas d'Antioche. Ils les amenèrent aux pieds des apôtres, qui leur imposèrent les mains en priant. grande preuve de la continence d'Étienne que d'avoir été choisi pour veiller aux besoins et aux désirs des saintes femmes. Grande preuve aussi de l'excellence de ce ministère et de ses mérites aux yeux de Dieu comme aux yeux des apôtres, que cette prière spéciale, cette imposition des mains, par lesquelles les apôtres semblaient adjurer ceux qu'ils y commettaient de s'en acquitter avec zèle en leur apportant l'appui de leurs prières et de leurs bénédictions. Saint Paul ne réclamait-il pas lui-même cette fonction comme la plénitude de son apostolat ? N'avons-nous pas, dit-il, comme les autres apôtres, le pouvoir de mener avec nous une femme qui soit notre sœur ? Comme s'il eût dit clairement, est-ce qu'il ne nous est pas permis d'avoir et de mener avec nous, dans notre prédication, un cortège de saintes femmes comme les apôtres, aux besoins desquels elles pourvoyaient de leurs biens ? Ce qui a fait dire à saint Augustin, dans son livre du travail des moines, pour cela, ils avaient de saintes femmes, riches des choses de ce monde, qui allaient avec eux, les nourrissaient de leurs biens et ne les laissaient manquer d'aucune chose nécessaire à la vie. Et encore, que quiconque se refuse à croire que les apôtres permissent à de saintes femmes de les accompagner partout où ils prêchaient l'Évangile, lise l'Évangile et il reconnaîtra qu'ils agissaient ainsi à l'exemple du Seigneur. Car il est écrit dans l'Évangile, Jésus, dès lors, allait dans les villes et les bourgades, annonçant le règne de Dieu, et 12 hommes étaient avec lui, et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits immondes et d'infirmités. Marie, surnommée Madeleine, et Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres qui l'aidaient de leurs biens. Ce qui prouve que le Seigneur lui-même, dans sa mission temporelle, a été assisté par des femmes et qu'elles étaient attachées à lui et aux apôtres comme des compagnes inséparables. Enfin, le goût de la vie religieuse s'étant, dès la naissance de l'Église, répandu chez les femmes comme chez les hommes, elles eurent, comme eux, des couvents particuliers, l'histoire ecclésiastique rapportant l'éloge que Philon, ce juif si éloquent, ne s'est pas borné à faire, mais qu'il a écrit en termes magnifiques de la grandeur de l'église d'Alexandrie sous saint Marc, ajoute au chapitre 16 du deuxième livre « Il y a dans le monde beaucoup d'hommes de cette sorte ». Et quelques lignes après, « Dans chacun de ces lieux-là se trouvent des maisons consacrées à la prière, qu'on appelle monastère. » Puis, plus bas, « Et non seulement ils comprennent les anciens hymnes les plus subtils, mais ils en composent de nouveau en l'honneur de Dieu qu'ils chantent en toutes sortes de modes et de mesures, avec une mélodie grave et qui n'est pas sans charme. » Dans le même endroit, après avoir parlé de leur abstinence et des saints offices de leur culte, il ajoute « Avec les hommes dont je parle, il y a aussi des femmes, parmi lesquelles se trouvent nombre de vierges déjà fort âgées, qui ont conservé leur pureté sans tache et leur chasteté, non par force mais par pieux zèle, et qui, dans leur ardeur pour l'étude de la sagesse, se consacrent corps et âme à Dieu, regardant comme indigne de livrer au plaisir un vase préparé pour recevoir la sagesse et d'enfanter pour la mort quand on aspire au sacré et immortel commerce du Verbe divin et à une postérité qui ne doit point être soumise à la corruption de la nature mortelle. » Le même Philon dit encore au sujet des congrégations « Les hommes et les femmes vivent séparément dans les monastères et ils célèbrent des offices de nuit, comme nous avons coutume de le faire. » C'est aussi à l'éloge de la philosophie chrétienne, c'est-à-dire de la vie monastique, ce que dit l'histoire tripartite au sujet de ce genre de vie embrassé par les femmes comme par les hommes. On y lit, en effet, au chapitre 11 du livre premier, les chefs de cette éminente philosophie furent, au témoignage de quelques-uns, le prophète Élie et Jean-Baptiste. Philon, le pythagoricien, rapporte de son côté que, de son temps, des Hébreux d'un rare mérite se réunissaient dans une maison de campagne bâtie aux environs de l'étang Maria, sur une colline, et qu'ils philosophaient. Ce qu'il fait connaître de leur demeure et de leur nourriture et de leur entretien est tout à fait conforme à ce que nous voyons aujourd'hui chez les moines d'Égypte. D'après lui, ces hommes ne mangeaient jamais avant le coucher du soleil, s'abstenaient de vin et de viande, vivaient de pain, de sel, d'hysope et d'eau. Et des femmes vierges et déjà parvenues à la vieillesse, qui avaient renoncé d'elles-mêmes au mariage par amour pour la philosophie, habitait avec eux. Tel est encore le témoignage que saint Jérôme, dans son livre des hommes illustres, au chapitre 7, rend au sujet de saint Marc et de son Église. Saint Marc, qui, le premier, annonça le Christ à Alexandrie, y fonda, dit-il, une Église telle par la pureté de sa doctrine et la chasteté de ses mœurs, qu'elle força tous les sectateurs du Christ à imiter son exemple. Enfin, Philon, le plus éloquent des Juifs, voyant que la première Église d'Alexandrie judaïsait encore, écrivit un ouvrage à la louange de sa nation sur la conversion des Juifs. Et de même que saint Luc rapporte que les chrétiens de Jérusalem avaient tout en commun, de même il raconte ce qui se passa sous ses yeux dans l'église d'Alexandrie, dirigée par saint Marc. Saint Jérôme dit encore au chapitre 11 « Philon le Juif, né à Alexandrie d'une famille de prêtres, est mis par nous au rang des écrivains ecclésiastiques, parce que, dans le livre qu'il a composé sur la première église d'Alexandrie, fondée par l'évangéliste Marc, il s'étend sur les loges de nos frères et fait connaître qu'il y en avait beaucoup d'autres dans un grand nombre de provinces et que les maisons qu'ils habitaient s'appelaient monastères. Il est donc évident que c'est ce genre de société des premiers chrétiens que les moines d'aujourd'hui se proposent pour modèle et cherchent à reproduire lorsqu'ils se donnent pour règle de ne rien posséder, de n'avoir parmi eux ni riches ni pauvres, de distribuer leur patrimoine aux malheureux, de se livrer à la prière, au chant des psaumes, à la prédication et à la continence. Et tels furent, en effet, au rapport de saint Luc, les premiers croyants de Jérusalem. 3. Feuilletons l'Ancien Testament et nous y trouverons qu'en tout ce qui concerne Dieu et les actes particuliers de la religion, les femmes n'ont jamais été séparées des hommes. Non seulement elles chantaient, mais elles composaient même comme eux de divins cantiques. Les saintes Écritures en font foi. En effet, elles ont commencé par chanter en commun avec les hommes le cantique sur la délivrance d'Israël, et dès ce moment, elles eurent le droit de célébrer les offices divins dans l'Église, ainsi qu'il est écrit « Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambour dans sa main, et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambours et en formant des chœurs, après qu'elle eut entonné ce cantique « Chantons en l'honneur du Seigneur, car sa grandeur a éclaté glorieusement. » Et il n'est pas question, en cet endroit, que Moïse ait fait acte de prophète. Il n'est point dit qu'il ait entonné le cantique avec Marie, ni que des hommes aient pris le tambour et formé des chœurs comme les femmes. Quand donc Marie, entonnant le cantique, est appelée prophétesse, cela veut dire qu'elle a moins entonné ou chanté ce cantique qu'elle ne l'a produit en prophétisant. Si elle est représentée l'entonnante avec les autres, c'est pour montrer l'ordre et l'harmonie qui régnaient dans leur chant. Quant au tambour qui accompagnait les voix et au cœur qu'elle formait, ce n'était pas seulement le signe de la grande piété des femmes, c'est aussi le symbole mystique de la célébration du divin office dans nos communautés monacales. Ainsi le psalmiste nous exhorte-t-il à les imiter. « Louez le Seigneur, dit-il, avec des tambours et des chœurs, c'est-à-dire par la mortification de votre corps et par cet accord de charité dont il est écrit « La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. » Il n'est pas, jusqu'à ce qu'elles ont fait pour chanter le Seigneur, qui ne renferme un sens mystique. Leur allégresse est une figure de la vie contemplative. En effet, l'âme, en s'attachant aux choses du ciel, abandonne, pour ainsi dire, l'attente du terrestre séjour. Et, du fond de sa douce contemplation, elle entonne triomphalement l'hymne spirituel en l'honneur de Dieu. Nous trouvons encore dans l'Ancien Testament les cantiques de Déborah, d'Anne et de Judith la veuve, comme dans l'Évangile celui de Marie, mère du Seigneur. En effet, Anne, offrant au tabernacle Samuel, son jeune enfant, donna au monastère, par cet exemple, le droit de recevoir des enfants. C'est pourquoi Isidore, écrivant à ses frères établis dans le couvent d'Honora, leur dit, au chapitre 5 de ses instructions, « Que quiconque sera présenté par ses parents dans un monastère sache qu'il doit y rester toujours. Car Anne a présenté son fils Samuel au Seigneur, et il est demeuré fidèle dans le temple aux fonctions auxquelles il avait été attaché, fidèle au service auquel il avait été consacré. » Et il est notoire que les filles d'Aaron participaient, comme leurs frères, au service du sanctuaire et aux privilèges héréditaires de la tribu de Lévi, si bien que le Seigneur assura leur entretien, ainsi qu'il est écrit au livre des Nombres, dans le passage où il dit lui-même à Aaron, « Toutes les prémices du sanctuaire offertes par les enfants d'Israël, je vous les ai données à vous, à vos fils et à vos frères, pour toujours. » Il ne paraît donc pas qu'il ait jamais été fait aucune distinction entre la condition religieuse des hommes et celle des femmes. Loin de là, il est constant que les hommes et les femmes avaient entre eux le lien du nom, puisque nous avons des diaconesses comme des diacres, les deux noms répondant, pour ainsi dire, à la tribu de Lévi et aux Lévites. Nous trouvons dans le même livre que le vœu si grave est la consécration des Nazaréens était également institué pour les deux sexes, selon les paroles que le Seigneur lui-même adresse à Moïse. Tu parleras aux fils d'Israël et tu leur diras, hommes ou femmes, tous ceux qui auront fait vœu de sanctification et voudront se consacrer au Seigneur, s'abstiendront de vin et de tout ce qui peut enivrer. Ils ne boiront ni vinaigre fait avec le vin, ni toute autre boisson faite avec le jus de la vigne. Ils ne mangeront ni raisins nouveaux, ni raisins secs, pendant tout le temps de leur consécration. Tout ce qui sort de la vigne, depuis le grain jusqu'au pépin, tout le temps de leur séparation, ils n'en mangeront pas. Elles étaient sans doute, astreintes à ce vœu, les femmes veillant à la porte du temple et dont Marie transforma les miroirs en un vase où Aaron et ses fils se purifiaient, ainsi qu'il est écrit « Marie fit placer un vase d'airain dans lequel Aaron et ses fils se purifiaient, et ce vase avait été fait avec les miroirs des femmes qui veillaient à la porte du temple. » L'ardeur de leur pieux zèle est peinte exactement par ce fait que, le temple fermé, elles restaient au dehors, attachées à la porte, et célébraient les saintes vigiles, passant la nuit en prière et n'interrompant même pas pendant la nuit le service du Seigneur, tandis que les hommes reposaient. La porte du temple qui est fermée figure heureusement la vie des pénitents qui sont séparés du reste du monde afin de pouvoir se soumettre aux mortifications d'une pénitence plus rigoureuse. Et telle est particulièrement l'image de la vie monastique qui n'est qu'un régime de pénitence plus douce. Quant au temple, à la porte duquel veillaient les femmes, c'est l'emblème mystique de celui dont parle l'apôtre en écrivant aux Hébreux « Nous avons un autel qui ne nourrit point les desservants du tabernacle, c'est-à-dire auxquels ne sont pas dignes de participer ceux qui s'adonnent voluptueusement au plaisir du corps, dans lequel ils servent ici-bas comme dans un camp. » La porte du tabernacle est la fin de la vie présente, le moment où l'âme s'échappe de ce corps mortel pour entrer dans l'éternité. À cette porte veillent ceux qui sont inquiets de la sortie de ce monde et de l'entrée dans l'autre, et qui se préparent à cette sortie de la pénitence pour entrer dans l'éternité. C'est au sujet de cette entrée de tous les jours dans la Sainte Église et de cette sortie que David faisait cette prière « Que le Seigneur veille à votre entrée et à votre sortie. » Et il veille à la fois à notre entrée et à notre sortie lorsque, au sortir de cette vie, si nous sommes purifiés par la pénitence, il nous reçoit aussi dans l'autre. C'est avec raison qu'il nomme l'entrée avant la sortie, considérant moins l'ordre que l'importance des choses. En effet, on ne sort de cette vie qu'avec douleur, tandis qu'on entre dans l'autre avec allégresse. Quant aux miroirs des femmes, ils sont les œuvres extérieures dans lesquelles on voit la laideur et la beauté de l'âme, comme on juge par un miroir matériel de la nature du visage. De ces miroirs, on fait un vase dans lequel se purifient Aaron et ses fils, en ce sens que les œuvres des saintes femmes, l'inébranlable fermeté du sexe faible dans le service de Dieu, condamnent la mollesse des pontifes et des prêtres et leur arrachent des larmes de componction. En ce sens que, s'ils prennent soin de ces femmes, comme ils le doivent, les bonnes œuvres qu'elles accomplissent préparent aux fautes qu'ils ont commises le pardon qui les purifie. C'est de ces miroirs que Saint Grégoire se faisait un vase de componction, alors qu'admirant la vertu des saintes femmes et les triomphes du sexe faible dans le martyre, il s'écriait en soupirant « Que diront ces barbares en voyant de tendres jeunes filles supporter de tels tourments pour le Christ, un sexe si délicat sortir victorieux d'une telle lutte ? Car les femmes ont remporté souvent la double couronne de la virginité et du martyre. » À ces femmes qui veillaient à la porte du temple, et qui, comme des Nazaréennes, avaient consacré au Seigneur leur virginité, je ne doute nullement qu'il faille joindre Anne, cette sainte qui mérita, conjointement avec Siméon, de recevoir dans le temple le véritable Nazaréen de Dieu, Jésus-Christ, d'être saisi d'un esprit plus que prophétique à la même heure que Siméon, de saluer le Sauveur, de faire connaître sa venue et de l'annoncer publiquement. C'est son éloge que développe l'évangéliste lorsqu'il dit « Et il y avait une prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari qu'il avait épousé vierge. Et elle avait gardé le veuvage jusqu'à l'âge de 84 ans, ne quittant pas le temple, jeûnant, priant et ne cessant nuit et jour de servir Dieu. Étant donc survenue en cet instant, elle annonçait la venue du Seigneur et en parlait à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. » Observez tout ce que dit l'évangéliste. Voyez quel zèle il déploie dans l'éloge de cette veuve et combien il exalte sa sainteté. Il parle du don de prophétie dont elle jouissait depuis longtemps, de son père, de sa tribu, des 7 années qu'elle avait vécues avec son mari, de son long veuvage consacré au Seigneur, de son assiduité au temple, de ses jeûnes, de ses prières incessantes, des actions de grâce par lesquelles elle confessait la gloire de Dieu, de sa prophétie publique sur la promesse et la naissance du Sauveur. Et le même évangéliste, en parlant plus haut de Siméon, avait célébré en lui le don de vertu, mais non le don de prophétie. Il ne dit point qu'il eût poussé si loin la continence, l'abstinence, la sollicitude du service divin. Il n'ajoute point qu'il eût annoncé le Seigneur à personne. Cette vie de pieux zèle et de dévouement me paraît être aussi le partage de ces veuves dont parle l'apôtre dans sa lettre à Timothée. « Honorez les veuves qui sont vraiment veuves, » dit-il. Et encore, « Que celle qui est vraiment veuve et abandonnée espère en Dieu, qu'elle persévère nuit et jour dans la prière, et cela surtout pour qu'elle demeure sans tâche. » Et encore, « Si quelque fidèle a des veuves, qu'il les secoure, que l'Église n'en soit pas chargée, afin qu'elle puisse subvenir aux besoins des véritables veuves. » Or, il appelle véritables veuves celles qui n'ont pas déshonoré leur veuvage par un second mariage et qui, persévérant dans cet état par esprit de piété, non par nécessité, se sont consacrées au Seigneur. Il les appelle abandonnées parce qu'elles ont renoncé à tout, ne se sont réservées aucune consolation sur la terre et n'ont personne pour prendre soin d'elles. Ce sont celles-là qui leur donnent d'honorer et d'entretenir aux dépens de l'Église, comme sur le revenu propre du Christ, leur époux. 4. Il indique aussi expressément quelles sont celles d'entre les veuves qui peuvent être choisies pour le ministère du diaconat. « Choisissez pour diaconesse, dit-il, une femme qui n'est pas moins de 60 ans, qui n'ait eu qu'un mari, dont on puisse rendre le témoignage qu'elle a fait le bien, élever des enfants, donner l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les affligés, accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Évitez les veuves trop jeunes. » Et saint Jérôme, développant ce dernier point, « Évitez, dit-il, pour le service du diaconat, les veuves qui sont trop jeunes, de peur qu'elles ne donnent le mauvais exemple au lieu du bon. Elles sont plus exposées à la tentation, plus faibles, et faute de cette expérience qui est le fruit de l'âge, elle pourrait être un sujet de scandale pour celle dont elle devrait être l'édification. Ces scandales des jeunes veuves, au sujet desquelles l'apôtre était si bien éclairé, il les fait expressément connaître, il en prévient le danger. Après avoir dit « Évitez les jeunes veuves », indiquant aussitôt le motif de cette prescription, et avec la prescription le remède, il ajoute « Après avoir joui de leur union en Jésus-Christ, elles veulent se remarier et encourent la damnation en violant leur foi. D'autre part, s'adonnant à l'oisiveté, elles s'accoutument à courir de maison en maison. Et elles ne sont pas seulement désœuvrées, elles sont causeuses, curieuses, parlent de ceux dont elles ne devraient pas parler. J'aime donc mieux que les jeunes veuves se remarient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent un ménage et qu'elles ne donnent à nos ennemis aucune occasion de nous diffamer. Car il en est déjà qui ont quitté le Christ pour suivre Satan. » Saint Grégoire s'inspirait aussi de la sagesse de l'apôtre au sujet du choix des diaconesses quand il écrivait en ces termes à Maxime, évêque de Syracuse. nous vous interdisons très expressément de nommer de jeunes abbesses. Que votre fraternité ne permette donc à aucun évêque de donner le voile à aucune vierge qui ne soit sexagénaire et dont la vie et les mœurs n'aient été mises à l'épreuve. On appelait autrefois diaconesses celles que nous nommons aujourd'hui abbesses. On les considérait comme des servantes plutôt que comme des mères. Diacre, en effet, signifie serviteur et l'on pensait que les diaconesses devaient recevoir leur nom de leur service plutôt que de leur rang, selon que le Seigneur l'a lui-même institué, et par ses exemples et par ses paroles. « Celui qui est le plus grand parmi vous, dit-il, sera votre serviteur. » Et encore, « Quel est le plus grand, de celui qui est à table ou de celui qui sert ? Pour moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Et ailleurs, « De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Aussi, saint Jérôme osa-t-il, fort de l'autorité du Seigneur, censurer énergiquement ce nom d'abbé dont il avait appris que quelques-uns se faisaient gloire. Il rappelle ce passage où il est écrit dans l'Épître aux Galates « Clamantem, Abba Pater ». Abbé, dit-il, est un mot hébreu qui signifie père. Puis donc il a cette signification en langue hébraïque et syriaque et que le Seigneur ordonne dans l'Évangile que nul ne soit appelé Père si ce n'est Dieu, j'ignore de quelle autorité nous donnons ou nous laissons donner ce nom à d'autres dans les monastères. Assurément, celui qui avait établi ce précepte est le même qui avait défendu de jurer. Si nous ne jurons pas, ne donnons donc pas non plus à personne le nom de Père. Ou bien, si nous assignons un autre sens à ce titre de Père, nous serons forcés de changer de sentiment aussi sur la défense de jurer. Il est certain que parmi ces diaconesses était Phébé, que l'apôtre recommande avec zèle aux Romains et en faveur de laquelle il les supplie. « Je vous recommande Phébé, notre sœur, dit-il, qui est attachée au service de l'église de Sancré, afin que vous la receviez au nom du Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle pourrait avoir besoin de vous. » car elle en a elle-même assisté plusieurs, et je suis du nombre. Cassiodore et Claude, en expliquant ce passage, estiment qu'elle était diaconesse de cette église. L'apôtre, dit Cassiodore, fait entendre qu'elle fut diaconesse de l'église mère, selon l'espèce d'apprentissage militant qui est encore en usage aujourd'hui chez les Grecs. Et cette église ne leur refuse pas non plus le pouvoir de baptiser. Ce passage, dit Claude, prouve que les femmes ont été attachées par l'autorité apostolique au service de l'Église et que ces fonctions ont été confiées dans l'Église de Sancré à Phébé, que l'apôtre loue et recommande si hautement. Le même apôtre, dans sa lettre à Timothée, comprenant les femmes parmi les diacres, les soumet à la même règle de vie. Là, en effet, réglant la hiérarchie des services ecclésiastiques, après être descendu de l'évêque au diacre, il dit « Que les diacres également soient chastes, point double dans leurs paroles, point à donner au vin, point avides d'un gain honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Puis, qu'ils soient soumis préalablement à une épreuve et qu'ils ne soient admis au saint ministère que s'ils sont sans reproche. Que les femmes aussi soient chastes, point médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Qu'on prenne pour diacre ceux qui n'ont épousé qu'une seule femme, qui ont bien élevé leurs enfants, bien dirigé leur maison. Car ceux qui serviront bien le Seigneur s'élèveront et acquerront une grande fermeté dans la foi qui est en Jésus-Christ. Or ce qu'il dit des diacres, qu'ils ne soient point doubles dans leurs paroles. Il le dit aussi des diaconèses, qu'elles ne soient pas médisantes. Ce qu'il dit des uns, qu'ils ne soient pas adonnés au vin, il le dit des autres, qu'elles soient sobres. Enfin, il renferme tous les autres préceptes en deux mots, qu'elles soient fidèles en toutes choses. De même qu'il ne veut pas que les évêques et les diacres aient contracté deux fois mariage, de même il établit que les diaconesses ne doivent avoir été mariées qu'une fois, ainsi que nous l'avons rappelé plus haut. Choisissez pour diaconesse une veuve qui n'est pas moins de 60 ans, dit-il, qui n'ait eu qu'un mari, dont on puisse rendre le témoignage qu'elle a fait le bien, élever ses enfants, donner l'hospitalité, laver les pieds des saints, assister les malheureux, accompli toutes sortes de bonnes œuvres. Évitez les veuves trop jeunes. Par cette peinture des diaconesses, ou plutôt par cette règle, il est aisé de voir combien il se montre plus sévère dans le choix des diaconesses que pour celui des évêques et des diacres. Car ce qu'il dit des diaconesses, qu'on doit pouvoir rendre le témoignage qu'elles ont fait le bien, donner l'hospitalité, etc., il n'en parle pas au sujet des diacres. Ce qu'il ajoute, qu'elles aient lavé les pieds, etc., il n'en dit pas un mot au sujet des évêques et des diacres. Il se contente de dire que les évêques et les diacres soient sans reproche. Mais pour elles, il veut non seulement qu'elles soient sans tâche, mais qu'elles aient accompli toutes sortes de bonnes œuvres. Il fixe même avec soin le degré de maturité de leur âge pour qu'elles aient plus d'autorité en disant qu'elles n'aient pas moins de 60 ans. En sorte que, non seulement la pureté, mais encore la longueur de leur vie, éprouvée en maintes choses, inspire plus de respect. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, malgré sa tendresse pour Jean, lui préféra Pierre ainsi qu'aux autres parce qu'il était plus âgé. En général, on souffre moins de voir à sa tête un vieillard qu'un jeune homme et nous obéissons plus volontiers à celui que la nature et l'ordre du temps, non moins que l'excellence de sa vie, ont mis au-dessus de nous. C'est ainsi que saint Jérôme, dans son premier livre contre Jovinien, dit au sujet de l'élection de saint Pierre « Un seul est choisi, afin que l'établissement d'un chef écarte toute occasion de schisme. » Mais pourquoi Jean n'a-t-il pas été élu? Parce que Jésus-Christ a déféré à l'âge, parce que Pierre était plus vieux, et pour ne pas donner à un jeune homme, presque à un enfant, la préférence sur des vieillards. En bon maître qui devait enlever à ses disciples toute occasion de querelle et qui aurait craint de paraître fournir un motif de jalousie contre son bien-aimé. C'est aussi par cette considération que cet abbé, dont il est parlé dans les Vies des Pères, ôta la prélature à un frère plus ancien dans l'ordre, mais plus jeune, pour la donner à un plus âgé. Sa seule raison était qu'il était son aîné. Il craignait que ce frère, encore engagé dans les liens de la chair, ne souffrit de se voir préférer un plus jeune que lui. Il se souvenait du mécontentement que les apôtres eux-mêmes avaient éprouvé contre deux d'entre eux, pour qui l'intervention de leur mère avait obtenu quelques privilèges auprès du Christ, l'un d'eux surtout étant beaucoup plus jeune que tous les autres, je veux dire Jean, dont nous venons de parler. 5. Ce n'est pas seulement dans le choix des diaconesses que l'apôtre a recommandé le plus grand soin. On voit à quel degré il pousse l'attention en tout ce qui touche les veuves animées du désir de se consacrer à Dieu. Il veut supprimer pour elles toute occasion de tentation. Après avoir dit « Honorez les veuves, les véritables veuves », il ajoute aussitôt « Mais si quelque veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'elle apprenne d'abord à conduire sa maison et à faire pour ses parents ce qu'ils ont fait pour elle. » Et quelques lignes plus bas « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison, il renie la foi. Il est plus coupable qu'un infidèle. » Par ces paroles, il satisfait en même temps aux devoirs de l'humanité et aux exigences de la profession religieuse. Il veut empêcher que, sous prétexte de profession religieuse, de pauvres orphelins ne soient abandonnés et que le sentiment de l'humaine compassion envers des malheureux ne trouble la résolution des saintes veuves, ne ramène leurs regards en arrière et ne les entraîne même parfois dans le sacrilège et ne les induise à détourner de la communauté pour donner à leurs proches. Il était donc bien nécessaire d'avertir celles qui sont dans les liens de la famille de commencer par rendre ce qu'elles ont reçu avant de passer au vrai veuvage et de se consacrer sans réserve au service de Dieu, c'est-à-dire de pourvoir à l'éducation de leurs enfants comme elles ont été élevées elles-mêmes par les soins de leurs parents. Pour porter plus haut encore la perfection des veuves, l'apôtre leur recommande de se livrer incessamment à la prière nuit et jour. Également préoccupé de leurs besoins, il dit « Si quelque fidèle a des veuves, qu'il les assiste, que l'Église ne les ait pas à sa charge, afin qu'elle puisse secourir les véritables veuves. » C'est comme s'il disait « S'il est des veuves qui est une famille capable, avec ses ressources, de subvenir à leurs besoins, qu'elle y pourvoie, afin que les revenus communs de l'Église puissent soutenir les autres. » De ces préceptes, il ressort clairement que, s'il en est qui se refusent à secourir les veuves qui leur appartiennent, il faut les contraindre, de par l'autorité apostolique, à s'acquitter de cette dette. L'apôtre ne s'est pas borné à pourvoir aux besoins des autres, il a voulu assurer les égards qui leur étaient dus. Honorez, dit-il, les veuves qui sont véritablement veuves. Telles furent sans doute celles que l'apôtre appelle sa mère et celles que l'évangéliste nomme sa maîtresse par respect pour la sainteté de leur état. Saluez, dit saint Paul écrivant aux Romains, saluez Rufus qui est élu dans le Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne. Et Jean dans sa seconde épître, le vieux Jean a sa maîtresse élue et à ses enfants, etc. Puis il ajoute plus bas, lui demandant son amitié, « Et maintenant je vous demande, ô maîtresse, que nous nous aimions l'un l'autre. » C'est aussi avec l'appui de cette autorité que saint Jérôme, dans sa lettre à Eustochi, qui avait fait les mêmes vœux que vous, ne rougit pas de l'appeler maîtresse. Bien plus, il se croit obligé de le faire, et il en donne aussitôt la raison. « J'appelle Eustochi maîtresse, dit-il, parce que je dois appeler maîtresse l'épouse de notre maître, etc. » Et plus bas, dans la même lettre, élevant l'excellence de ce saint état au-dessus de toutes les gloires de la terre, « Je ne veux pas de commerce avec les femmes du monde, dit-il. Je ne veux pas que vous fréquentiez les maisons des nobles, je ne veux pas que vous les voyiez, puisque, renonçant au monde, vous avez voulu être vierge. Si l'ambition des courtisans les pousse aux pieds de l'impératrice, pourquoi feriez-vous injure à votre époux ? Épouse de Dieu, pourquoi porteriez-vous vos hommages à l'épouse d'un homme ? Pénétrez-vous en ceci d'un saint orgueil. Sachez que vous êtes au-dessus d'elle. » Le même, écrivant à une vierge consacrée à Dieu, au sujet du bonheur réservé dans le ciel et sur la terre aux vierges consacrées à Dieu, dit « Quel bonheur est réservé dans le ciel à la sainte virginité, indépendamment des témoignages de l'Écriture, l'Église, par ses usages, nous l'enseigne. Elle nous apprend qu'un mérite particulier est attaché aux consécrations spirituelles. En effet, bien que la multitude des croyants ait également droit au don de la grâce et que tous se glorifient de participer au même sacrement, les vierges ont un privilège spécial puisque, à cause des mérites de leur intention, elles sont choisies par le Saint-Esprit dans le saint et pur troupeau de l'Église comme les victimes les plus saintes et plus pures pour être offertes par le grand prêtre sur les autels de Dieu. Et encore, la virginité possède quelque chose que les autres n'ont pas, puisqu'elle obtient spécialement la grâce et jouit du privilège d'une consécration particulière, consécration telle qu'à moins de danger de mort imminente, elle ne peut être célébrée à d'autres époques que l'Épiphanie, l'Octave de Pâques et la Fête des Apôtres, et qui n'appartient qu'au chef des prêtres, c'est-à-dire à l'évêque, de bénir les vierges, ainsi que les voiles qui doivent couvrir leurs têtes sanctifiées. Pour les moines, bien qu'ils appartiennent à la même profession, au même ordre, et qu'ils soient d'un sexe plus élevé, fussent-ils aussi purs, ils peuvent recevoir chaque jour et des mains de leur abbé la bénédiction pour eux-mêmes et pour leur habit, c'est-à-dire pour leur capus. Les prêtres aussi et les clercs d'ordre secondaire peuvent être ordonnés aux quatre temps et les évêques tous les dimanches. Mais la consécration des vierges, d'autant plus précieuse qu'elle est plus rare, est réservée pour les allégresses des grandes solennités. L'Église entière tressaille de joie pour célébrer la vertu admirable des vierges, ainsi que le psalmiste l'avait prédit en ces termes « Des vierges seront amenées au roi ». Et ensuite, « Elles lui seront présentées avec des transports de joie et d'allégresse. Elles seront amenées dans le temple du roi ». On croit même que c'est l'apôtre et évangéliste saint Matthieu qui a composé ou dicté le rituel de cette consécration, ainsi qu'on le lit dans les actes du martyre qu'il subit, pour la défense de la virginité religieuse. Au contraire, sur la consécration des clercs et des moines, les apôtres ne nous ont laissé aucune règle écrite. C'est aussi du nom de la sainteté que les religieuses ont reçu leur nom, puisque c'est du mot « sanctimania », c'est-à-dire « sainteté » qu'elles ont été appelées « sanctimoniales » ou « saintes moinesses ». En effet, le sexe des femmes étant plus faible, leur vertu est d'autant plus agréable à Dieu, d'autant plus parfaite, ainsi qu'en témoigne le Seigneur lui-même en exhortant l'apôtre à combattre pour la couronne. « Ma grâce vous suffit, dit-il, car c'est dans la faiblesse que la vertu arrive à sa perfection. » C'est ainsi encore qu'en parlant par la bouche du même apôtre, des membres de son corps, c'est-à-dire de l'Église, il lui fait dire, dans cette même épître aux Corinthiens, comme s'il voulait recommander les égards pour les membres les plus faibles, « Les membres de notre corps qui nous paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires, et ceux que nous regardons comme les moins nobles sont précisément ceux pour lesquels nous avons le plus de ménagement. Les parties les moins honnêtes sont les plus honnêtement traitées. Celles qui sont honnêtes n'ont besoin de rien. Dieu a disposé le corps de telle sorte qu'on ait le plus d'égards pour les membres les plus faibles et qu'il n'y ait point de schisme dans le corps, mais que les membres conspirent mutuellement à s'aider les uns les autres. Peut-on dire que la grâce divine ait dispensé ses trésors à qui que ce soit aussi largement qu'au sexe le plus faible, que le péché originel autant que sa nature avait rendu méprisable? Examinez-en les divers états, considérez non seulement les vierges, les veuves, les femmes mariées, mais encore celles qui vivent dans les abominations du libertinage, et vous trouverez en elles les plus larges dons de la grâce divine. En sorte que, selon la parole de Jésus-Christ et de l'apôtre, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, et que là où il y a eu abondance de péchés, il y a surabondance de grâce. »